petit philosophe dans le vaste monde. Une émission proposée par Bernard Ribal. Bernard Ribal, essayiste, agrégé et docteur en philosophie.
Le mot démocratie, très galvaudé, a de multiples sens. Dans son acception la plus large, la démocratie articule la volonté de tenir compte de l'opinion des personnes et des groupes qui composent un peuple. La première session du synode sur la synodalité, alors expression un peu obscure, avouons-le, cette première session synodale s'est nettement ouverte à cette aspiration démocratique, en insistant justement sur le mot synode, c'est-à-dire ensemble. Déjà, en 1991, dans l'encyclique Santissimus Annus, Jean-Paul II écrivait, je cite, « L'Église apprécie le système démocratique ». Dans quelle mesure cette Église de tradition monarchiste peut-elle être démocratique? Pas besoin de grandes théories, les faits sont enfin là. Pour la première fois dans l'histoire, un synode des évêques du monde entier a rassemblé, en plus des évêques, de nombreux laïcs délégués par leur communauté. Pour la première fois, des laïcs y ont pris la parole. Pour la première fois, des laïcs ont eu droit de vote. Pour la première fois, des femmes y ont participé et avec droit de vote. Le pape François se prononce pour un changement culturel d'une Église plus inclusive et démocratique. Attention, le débat, le but n'est pas la prise d'assaut du pouvoir ecclésial par les laïcs. Le texte issu de cette session synodale insiste sur la nécessité d'écouter les ministres ordonnés, c'est-à-dire d'écouter les évêques, les prêtres, les religieux, bien sûr le pape. Le but est d'équilibrer l'Église entre les responsabilités du clergé et les responsabilités des fidèles laïcs de tous les baptisés. Le problème n'est pas principalement la pénurie de prêtres qu'il faut pallier par plus d'engagement des laïcs. Le souci essentiel est d'assumer ce qu'est l'Église. Elle ne se réduit pas au pape et aux évêques, aux prêtres. Elle est l'ensemble des baptisés. C'est tout cela qu'il faut inclure dans toutes les activités de l'Église. Tel est l'effort démocratique indispensable pour que l'Église soit l'Église et non une simple oligarchie d'hommes certes vénérables. En fait, nous avons perdu du temps car la quasi-totalité de cet effort démocratique aurait dû être achevé, oui, depuis longtemps, depuis 1965, c'est-à-dire la fin du Concile Vatican II. Relisons la constitution Lumen Gentium, c'est-à-dire lumière des nations, de ce concile. Tout y est avec insistance. C'est un appel audacieux, très audacieux, à la prise de responsabilités importantes des laïcs dans la gouvernance des paroisses et des diocèses. Alors, pourquoi n'a-t-on guère progressé dans ce sens, sauf rares et heureuses exceptions? D'abord parce que, contrairement à ce que j'entends dire. Je ne suis pas persuadé que nous, les fidèles laïcs, nous désirions vraiment prendre massivement des responsabilités ecclésiales. Quelques-uns, oui, mais la plupart sommes dans l'indifférence. Nous sommes trop souvent des consommateurs de religion plutôt que des acteurs du Christ. Nous sommes majoritairement passifs. Nous ne sommes pas saisis par la foi inouïe des pères de l'Église pour qui Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Faute de devenir un agneau de Dieu, le fidèle moyen aujourd'hui reste souvent un mouton de Panurge. Puisse le synode nous réveiller. Pendant ce sommeil léthargique de beaucoup de laïcs, le clergé a pu parfois se complaire dans le cléricalisme que les fidèles lui abandonnaient majoritairement. Les quelques laïcs proactifs faisaient figure ici ou là de rebelles, de dissidents. C'est ainsi qu'on écoute sagement les homélies, mais sans nécessairement se les approprier. Sur les questions des migrants ou sur celles du réchauffement climatique, les sondages montrent que même les pratiquants ne sont guère plus émus que les non-croyants. C'est pourquoi, en début de session synodale, donc début octobre, François a réitéré son ardent souci écologique avec l'exhortation Laudate Deum. Sera-ce en vain? L'ouverture démocratique de l'Église se manifeste aussi dans son accueil de toutes les femmes et de tous les hommes. Dans son introduction synodale, le pape François a redit, je cite, « que l'Église n'exige jamais de bulletin de bonne conduite ». Le Christ ne confond pas morale et spiritualité, profane et sacrée. Le Christ n'exclut personne et pardonne tous les humains. Alors pourquoi serions-nous intolérants et irrespectueux de la dignité absolue de chaque personne, quiconque est quelqu'un qui compte dans l'Église. La tolérance est une valeur démocratique. La tolérance est le respect de certaines différences culturelles. Les participants du synode d'octobre 2023 à Rome ont apprécié les diverses approches différentes, spirituelles et liturgiques des Églises latines et des églises catholiques d'Orient, ces dernières, les églises catholiques d'Orient, aujourd'hui aux prises souvent avec les guerres en divers Proche-Orient. La pluralité anime la vitalité de l'Église dans la mesure où elle ne divise pas radicalement dans un climat qui serait délétère. Mais il y a plusieurs demeures dans la maison du Père, et même au sommet de la hiérarchie, deux papes, l'un émérite, Benoît XVI, et l'autre en responsabilité, François, se sont parfois un peu accroché, malgré des convergences quasi unanimes. Sur l'origine des abus et déviances sexuelles dans le clergé, Benoît ciblait une dégénérescence des mœurs depuis 1968, tandis que François insistait sur l'entre-soi du cléricalisme. De même, Benoît XVI, bien que pape retraité, s'inquiétait publiquement d'une possible avancée vers le mariage des prêtres, timidement entreaperçu, paraît-il, lors du synode de l'Amazonie en 2020. Il y a toujours eu, dans l'Église, les conservateurs et les progressistes. Et ce synode 2023 n'échappe pas à cette dualité où la tradition est la condition nécessaire de la pérennité de l'Église et où l'ouverture à l'avenir est la condition tout aussi nécessaire de l'évangélisation future. C'est ainsi que, fort heureusement, fut clairement évoquée l'extension du nombre des diacres et l'accès des femmes à ce diaconat. Alors, victoire progressiste, n'exagérons rien. Quand on observe la grosse minorité, mais je dis bien quand même minorité, quand on observe la grosse minorité qui a voté contre ce diaconat féminin. D'ailleurs, les plus progressistes continuent à revendiquer l'accès des femmes à la prêtrise. Et bien entendu, elles en sont dignes. Mais Dieu s'est incarné. Et il n'existe pas de corps asexué. Le prêtre, lors de la consécration, est le Christ en personne, in persona Christi. Et le Christ est un homme. Il n'est pas multigenre. Mais cet argument anthropologique est peut-être trop abstrait pour être largement partagé. Le mariage des prêtres fait aussi débat, voire même le mariage homosexuel des prêtres. Cependant, les religions chrétiennes qui l'ont adopté ne se portent pas mieux que l'Église catholique, parfois même moins bien. Si, malgré de vives divergences, le synode d'octobre fut de très bonne tenue de l'avis de tous les participants, c'est que l'esprit souffle, et souffle particulièrement sur la méthode de la conversation, de la discussion, méthode adoptée plutôt que les longs discours ex cathedra des synodes précédents. J'habite près de la Grasse, dans l'Aude, au lieu de fourmillement intellectuel et spirituel. Il y a des élites du traditionalalisme catholique, il y a aussi l'arrière-garde intello de l'ex-gauche prolétarienne. Les animations sont enrichissantes de part et d'autre, mais peu de dialogue entre les deux bords. Coexistence pacifique seulement, mais c'est déjà bien. Jusqu'où peut aller la démocratie ecclésiale? C'est le Christ, le fondateur de l'Église, et non, semble-t-il, la Vox Populi. Mais le Christ est non seulement le fondateur de l'Église, il est l'Église. Il est son corps mystique. Alors, poursuivons l'acte de foi. Le corps mystique, c'est nous, les baptisés. Alors finalement, la Vox Populi peut être la Vox Dei si les fidèles formés restent connectés aux Écritures, à la tradition et au magistère.
C'était Petit philosophe dans le vaste monde, une émission de Bernard Ribal.